Nous rejoignons Chris O'Brien, qui a parfois fait partie de la rédaction de l'émission, qui a été naturalisé sans Minitel. Chris, bonjour.
Bonjour, comment ça va? Ça fait longtemps?
Eh oui, ça faisait très longtemps. Pour rappeler un petit peu, en fait, à ceux qui te découvrent un petit peu, tu es journaliste d'origine américaine. Tu as couvert, en fait, le numérique à la Silicon Valley et un petit peu partout. C'est quand la première fois que tu as entendu parler du Minitel?
Ah, ça fait longtemps, en fait. Il y a 20 ans, je crois, j'avais entendu parler de la Minitel quand, pas loin après, on a découvert l'Internet aux États-Unis. Donc, fin des années 90, pendant le boom d'Internet. Et puis, oui, il y a certains qui disent, oh, les Français, ils ont déjà vécu cette version de la vie digitale. Ils ont depuis longtemps à voir quelque chose comme un petit réseau pour échanger la finance, faire les achats en virtuel. C'était étonnant, mais moi, en fait, je savais très peu sur le Minitel à ce moment.
Et en général, on en parlait comment? Comme étant un système avec une facturation à la consultation, d'une manière admirative ou d'un truc franco-français qui n'a pas marché à l'extérieur, donc finalement, c'est pas génial.
Non, c'était quelque chose de plutôt positif parce que il semblait que les Français, ils ont découvert le futur avant nous. Ils ont fait quelque chose en avance, ils ont approfondi leur connaissance de ce système. C'est difficile de se souvenir aujourd'hui, mais le principe de la vie virtuelle, c'était compliqué à maîtriser pour comprendre comment on peut faire ce genre de choses, comment on peut être connecté avec les gens, les magasins, d'autres choses. Au départ, c'était un principe difficile de saisir pour le plus part du monde.
Et dans le milieu de la tech, il y a quelques Français qui sont depuis longtemps dans la Silicon Valley. Certains l'avaient déjà manipulé, ou finalement, c'est pas typiquement le genre de choses que tu abordais comme question.
Non, j'ai pas vraiment interrogé ce genre de sujet pour le français en Silicon Valley en ce moment. Mais il y a certaines, je croisais comme Javier qui était venture capitaliste à Silicon Valley, très réputé, mais il n'était pas une grande communauté de français qui l'a repris à cette époque.
Tu as fait plusieurs voyages en France, si je me trompe, avant de t'y établir en 2015. C'est quand la première fois que tu en as touché un?
Après, nous sommes arrivés en France en 2014. On a commencé d'établir notre appartement et j'ai passé par Emmaüs pour profiter de le meuble ancien et le marché de trucs comme ça. Et on a tombé par hasard sur un ancien Minitel. Et c'était ma femme Jeanne qui fait des études dans le monde numérique, qui était complètement insisté qu'il faut acheter absolument un Minitel pour notre appartement. Et je sais que tu as vu cette fameuse Minitel chez nous. Ça nous a coûté pas trop cher, 10 €, 15 € peut-être, la petite boîte marron. Et ça nous a fait rigoler, mais pour moi, c'est le doux. Aujourd'hui, je crois même le français, il se moque souvent de le Minitel. Même à la fois, il y a un peu de fierté sur ce domaine. Tu sais de quoi je parle?
C'est cocardier.
Ça semble ridicule aujourd'hui, mais en fait, ça met en vente la compétence de le français dans ce genre de recherche, de données, de, comment dire, les compétences des ingénieurs en français et en France, et ça, c'est une bonne chose.
Dans la série de 3 émissions sur la longue interview qu'on a faite de Monsieur X pour là-dessus, il y a un truc qui nous a énormément surpris en préparant cette émission, c'est qu'il y a eu d'autres initiatives dans ce qu'on appelle la télématique, d'autres initiatives nationales. Il y en a eu en Allemagne avec le TBX, il y en a eu en Angleterre avec le Prestel, et elles ont toutes été en échec. D'après toi, qu'est-ce qui fait qu'en France, ça a marché?
Moi, je sais pas trop, mais ça c'est... Aujourd'hui, je crois que ça c'est la raison pour honte autour de le militaire, parce que pour quelques raisons, plutôt que donner l'avantage à la France et le français dans le monde numérique, il y avait un échec. Et puis, avec le chute du marché pour le Minitel, pour quelques raisons, le français, il semble comme le français était bloqué. Il y a certains, bien sûr, comme Xavier Niel, qui a profité de la bénéfice d'une petite start-up autour de la Minitel pour gagner le fonds, qui a lancé une belle carrière dans le monde digital. Mais c'était une exception, comme il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui deviennent de cette époque. Et ça, c'est dommage, parce qu'il est l'échec de la Minitel au fond de cette marché. Il était un échec, mais ce que c'est dommage aujourd'hui, il n'est pas donné
La pulsion, ça a pas donné le marchepied, ouais.
Oui, c'est comme on a perdu une génération d'entrepreneurs. Et ça a pris le temps pour la France de rattraper leur retard dans ce domaine. Aujourd'hui, on peut constater, bien sûr, il y a le plus de startups, des entrepreneurs, mais ça a pris le temps. Et pour cette raison, c'était un peu étonnant que la France était en retard par rapport aux choses innovantes et la création de la startup digitale.
Ce qui était la killer app du Minitel, outre les pages jaunes, enfin le 11, l'annuaire, c'était les messageries roses. Est-ce que ça t'a surpris?
Je connais pas trop. Ça, c'est le truc des Xavier Niel,
Il n'y
les
a pas
appels
eu que lui,
plutôt
hein.
adultes. Non, en fait, je sais pas trop sur les applications sur le Minitel, sauf pour, en gros, oui, on peut faire les achats ou faire le booking pour quelque chose, mais faire le banking, je crois, pour transférer l'argent, mais c'est très peu sur l'application qui réussit ou qui a attiré l'entrée des gens à cette époque.
En faisant les recherches, je suis retombé en fait sur un labo de recherche universitaire basé aux États-Unis qui s'appelle le Minitel Lab, qui est consacré exclusivement à ça. D'après toi, qu'est-ce qui vous fascine aux États-Unis? On a essayé de vous le refourguer, vous n'en avez pas voulu, et maintenant vous faites des recherches là-dessus. Qu'est-ce qui se passe?
Ça, c'est énorme. Non, je n'ai jamais entendu parler de ces choses, mais ça m'intéresse parce que j'aurais imaginé que ce genre de système avait beaucoup d'influence, même si ce n'était pas évident aujourd'hui, comme il nous a touchés ou influencé le développement de ce genre de choses. Je sais qu'aux États-Unis, par exemple, il y a certaines qui avaient accès au Internet dans les années 80 aux universités, où ils ont appris comment on peut concevoir les applications, les business, les applications autour de le système de l'Internet. Parce que, encore une fois, c'était plus comme la science-fiction. On peut imaginer que ceux qui ont conçu le Minitel, ils en avaient beaucoup d'influence. Et donc, pour ça, je peux imaginer, ça c'est un sujet qui s'intéresse les acquis, les chercheurs pour devenir le lien entre le présent qu'on vit et le passé avec le, et pour établir le lien entre les deux, le Minitel et aujourd'hui.
Et donc, si tu veux chercher, donc leur site internet, c'est minitel.us, d'ailleurs, le Minitel Research Lab USA. Ce qui est aussi très surprenant, c'est que c'est devenu une machine devenue désuète et donc qui a été récupérée par son propriétaire, par France Télécom, pour le détruire. Par contre, ce qui est surprenant, c'est la scène de hack. Et j'ai vu des bricolages absolument fous furieux autour du Minitel. Il y en a qui le reprogramment complètement pour en faire un véritable ordinateur. Il y en a qui s'en servent pour en faire une télé ou un moniteur. Et tu es venu avec moi plusieurs fois lors du festival des hackers à Mixarmiris, organisé par le Theta Lab, le THSF, où il y avait des murs de Minitel. Est-ce que pour toi c'est la même chose que le 8-bit, c'est ce côté de nostalgie ou bien c'est parce que c'est quelque chose de tellement incongru?
Bon, bah, oui, c'est un peu de nostalgie parce que nous sommes à ce point-là d'une époque des ordinateurs où comme je sais, ça t'intéresse aussi, mais les anciens ordinateurs des années 80, ça nous intéresse encore. Si tu as déjà regardé la série Mr. Robot, par exemple,
Oui.
même on traite comme le monde des hackers, donc hyper sophistiqué, bien doté, super doué avec le code, la méthode, la façon de hacker quelqu'un. Mais à la fois, il fait beaucoup de références à les ordinateurs anciens parce que ça nous a fait partie de notre vie et moi, j'ai 52 ans. Je me souviens beaucoup de ces anciens ordinateurs qui m'ont formé, qui ont vraiment influencé ma vie et la vie autour de moi. Donc, pour nostalgie, ça c'est important. Mais aussi, ces ordinateurs anciens, ils semblent, comment dire, plus accessibles. On peut, aujourd'hui, maintenant, en fait, je suis devant ma MacBook Air et c'est impossible pour moi d'ouvrir et jouer ou réparer l'intérieur de cet ordinateur. C'est une boîte fermée. Donc, aucune transparence. C'est difficile de comprendre comment il marche pour réparer ou améliorer quelque chose. Et donc, à cette époque, c'est un grand, par rapport à aujourd'hui, le Minitel était plutôt grand. C'était comme une télévision, petite télévision. On peut ouvrir l'extérieur et jouer avec l'intérieur pour deviner comment il marche. Et donc, pour ça, c'est une méthode, j'imagine, pour aussi comprendre l'origine de ce monde et aussi apprendre un petit peu. Mais aussi, bien sûr, le côté nostalgique, ça c'est fort.
Chris, merci beaucoup. On retrouve ta plume dans Venture Beat et dans Forbes, mais Forbes, c'est pour tout à fait autre chose. Aussi pour la découverte de la France par les yeux d'un Américain expatrié, c'est sur French Crossroads. Et tu viens de lancer donc une newsletter technologique qui s'appelle The French Tech Journal.com. Merci d'avoir bien voulu revenir dans l'émission pour un épisode.